Je pensais que la moitié d'entre vous seraient rentrés à la maison. Voilà, si tu dis qu'il y avait, j'ai commencé en disant qu'il y avait peut-être trois obstacles au fait de connaître mieux Dieu. J'espère que nous sommes convaincus qu'il y a une réalité invisible, plus réelle et plus permanente que tout ce que nous pouvons voir, toucher, goûter, sentir. Et cette réalité, c'est le monde invisible, c'est l'éternité, c'est qui est Dieu aujourd'hui et pour toujours, et c'est ce qui va rester après que tout le reste est disparu. Et donc nous parlons d'investir pour l'invisible, d'investir pour l'éternel, d'investir pour le permanent, d'investir pour le réel. Et évidemment, avec cela, pour cela, on n'a pas des outils matériels. Le deuxième obstacle, je disais qu'il était peut-être notre motivation. Je ne sais pas si j'ai atteint mon objectif, mais j'aurais envie de vous donner envie de connaître la joie qu'il y a à connaître Dieu. La joie qu'il y a à passer du temps dans sa présence, seul, dans le silence. Et puis, troisième obstacle, je disais qu'il était pratique, et donc ça va être le volet que je vais aborder maintenant, comment, de manière pratique, utiliser quelques-unes de ces disciplines spirituelles, alors qu'ils ne sont certainement pas des fins en soi, et ça j'en parlerai demain matin, mais qui sont simplement un moyen de nous mettre devant Dieu pour recevoir de lui. Mais je développerai ça demain matin. La première chose, la première discipline dont je voudrais vous parler, c'est la méditation. Méditation, alors on ne va pas parler de méditation transcendantale, on ne va pas parler de toutes les techniques de motivation. On fait même maintenant de la méditation un moyen de s'accomplir. Maintenant, il faut s'accomplir, hein, n'est-ce pas? Alors, ce n'est pas de ça dont on va parler. On va bien parler de la méditation de la parole de Dieu. C'est tout sauf faire le vide dans sa tête, mais c'est penser avec Dieu. Face au bruit, à la vitesse et à la foule, s'arrêter pour écouter Dieu, réfléchir aux choses de Dieu, ruminer la parole de Dieu. Et chaque fois qu'il est question de méditation, l'accent est mis sur le changement de comportement résultant d'une rencontre avec le Dieu vivant. La méditation n'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen que Dieu utilise pour nous transformer, parce que nous le rencontrons face à face. Et c'est clair que lorsqu'on parle méditation, eh bien, il y a en prérequis la notion de soumission, d'obéissance, de repentance qui sont essentielles. Psaume 119, 11. Je garde ta parole au fond de mon cœur. Ceux qui sont habitués à la seconde, je serre la parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Méditation, comportement. Enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît, puisque tu es mon Dieu. Psaume 143, 10. Dieu est Dieu. Alors enseigne-moi ce qui te plaît. J'ai déjà cité le verset 99, toujours du chapitre 119. Il est magnifique, hein, ce chapitre. Il y en a quelques-uns qui le connaissent par cœur. Vous connaissez tous le psaume 117 par cœur, évidemment, hein. Mais le psaume 119, Combien j'aime ta loi, je la médite toute la journée. Moi, je me suis converti, j'avais 20 ans, ou 21, 20 ans. Et bien qu'ayant été élevé dans une famille catholique, je ne connaissais pas la Bible. Et comme j'étais dans une école d'ingénieur, je croyais que j'étais intelligent. En tout cas, c'est ce qu'on me disait, de croire. Ça, ce n'est pas trop difficile. Et puis, j'ai découvert qu'il y avait ce grand vide dans mon éducation. Je ne connaissais pas la parole de Dieu. Et puis, ben voilà, parce que j'étais déjà plus un gamin et que j'avais quelques combats. Les premiers mois, premières années, surtout la première année de ma conversion, deuxième année, j'étais en Angleterre tout seul. Là-bas, je travaillais. Je pourrais vous donner les détails, mais je n'ai pas le temps ce soir. En fait, là, au moment où je pense, j'étais dans une cuisine, je faisais la vaisselle dans la cuisine d'un hôpital. Ce que je n'avais jamais appris à faire à l'école d'ingénieur, d'ailleurs, mais peu importe. Et il fallait que j'aie constamment devant moi des versets bibliques parce que ma tête partait complètement en live. Mes pensées. J'avais de telles batailles dans ma tête et j'ai mémorisé des versets et des versets et des livres de la Bible, mais c'était essentiel pour moi. Sinon, ma tête, je partais dans tous les sens. Alors, je partais au boulot, j'avais des petites fiches dans mes poches. Et puis, alors, c'était super parce que quand tu fais la vaisselle, la tête, elle est libre. Hein. Et j'avais ces... Mais ce n'est pas péjoratif, hein. Excusez-moi si j'ai blessé quelqu'un en disant ça, mais ça permet au contraire de méditer. Et j'avais devant mon évier ces petites fiches. Et alors, je grattais mes... Et j'avais des tas... Je me souviens toujours l'illustration que le Seigneur m'a donnée pour comprendre l'œuvre du Saint-Esprit. C'était... J'étais en train, avec une paillasse en fer... De racler, je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ça, de racler des grands plats en inox, vous savez, avec des roasted potatoes, pommes de terre sautées qui avaient collé, vous savez, là. Et vous n'avez pas un plat. Et là, tu frottes. Et puis le Seigneur, il dit, le Saint-Esprit te dit, laisse tremper. Mais ce n'est pas qu'il m'a dit de laisser tremper, mais j'ai compris qu'en laissant tremper... Mais ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Toi, tu voudrais que ta vie, elle change à la paille de fer. Et la voix douce du Saint-Esprit, c'est dit, toi, moi, je ne travaille pas comme ça. Mais ça t'infuse et tu laisses tremper. Voilà, c'est peut-être Dieu, il faut qu'il se mette au niveau de chacun pour parler. Hein, mais... Bon, il me parle aussi au niveau à travers des voitures. Mais ça, c'est une autre histoire. Peut-être que je vous raconterai une histoire de voiture. Mais méditer la parole de Dieu pour changer de comportement. J'écarte mes pas de tout mauvais chemin afin de me conformer à ta parole, obéissance. Je ne me détourne pas de tes sentences, car c'est toi qui me les as enseignées, soumission. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Moi, je crois que quand on est chrétien, on est avantagé quand on fait des études, quand on réfléchit. On est plus intelligent. On a du discernement parce qu'on pense avec Dieu. Enfin, c'est incroyable, les mensonges que le monde avale quand même. Et la parole de Dieu, la révélation, si Dieu n'éclaire pas, on ne voit rien. Même nous, on n'est pas capable de comprendre la parole de Dieu. Mais c'est Dieu qui l'illumine. Alors, beaucoup de personnages bibliques ont médité. J'aime beaucoup Genèse 24, 63 que je cite pour les célibataires. Isaac avait l'habitude d'aller méditer le soir dans les champs. Et pour les célibataires, vous lirez le contexte et ça vous encouragera. Dans Genèse 24, 63. Ce qui le préoccupait, c'était Dieu. Et puis il a vu des chameaux arriver. Psaume 63, 7. Lorsque je penserai à toi sur mon lit, lorsque je méditerai sur toi pendant les heures de la nuit. Voilà, quand on est vieux, on dort mal. Et la nuit, quand je me réveille, c'est la guerre. Je ne sais pas si ça vous fait ça. Mais la première pensée qui te vient, c'est généralement pas terrible. Et c'est très dur de se rendormir. Et tu... Alors je médite. L'éveil de la nuit. et tu en arrives à dire merci Seigneur de me tenir éveillé. Mais c'est nécessaire, c'est indispensable dans ces moments-là de se remémorer qui est Dieu, ce qu'il a fait. Je trouve, celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Alors, on a des exemples, donc Genèse, le psalmiste Isaac dans Genèse, Élie et Samuel dans 1 Samuel 3, je vais vite. L'image, je l'ai un petit peu déjà citée, mais Élie qui parle de ce murmure doux et léger. Oui, l'histoire d'Élie et Samuel, elle est belle quand même, parce que moi je trouve que Dieu, trois fois il s'y reprend pour parler à Samuel. Combien de fois Dieu doit nous adresser la parole? C'est magnifique quand tu penses à ce passage aussi. Et puis finalement, Samuel, sur le conseil d'Élie, vas-y, parle. C'est magnifique. Jérémie a eu des expériences aussi avec la parole de Dieu, hein, ce feu dévorant qui est dans son cœur. Et puis, bon, Jésus qui partait se mettre à l'écart pour parler avec son Père. Alors, définition de la méditation, c'est la capacité à entendre la voix de Dieu et obéir à sa parole. Je crois qu'il faut bien mettre les deux ensemble. Rien de compliqué ou de magique. Avant la chute, parler avec Dieu, c'était quelque chose de tout à fait naturel. Adam et Ève semblaient n'avoir aucun souci de communication pour parler avec Dieu dans le jardin. Malgré la chute, Dieu continue à parler, on est bien d'accord. À Caïn, à Abel, à Noé, à Abraham, et ainsi de suite. Y a eu des hommes qui ont parlé avec Dieu de manière tout à fait spectaculaire. Moïse parlait face à face. Ce qui est intéressant avec Moïse, c'est que le peuple a délégué complètement cette faculté à Moïse. Non, écoute, nous on ne veut pas, on a un petit peu peur, que Dieu ne nous parle pas à nous, de peur que nous mourions. Et puis évidemment, Jésus a parlé aux disciples, toujours dans la soumission à son Père, en répétant ce que son Père lui disait. Hein, cette magnifique image aussi de des brebis qui connaissent sa voix, et ainsi de suite. Alors, le livre des Actes, je trouve qu'il est aussi très, très fort dans ce domaine-là. Il semblait bien que les apôtres, les disciples, dans le livre des Actes, recevaient des directions très claires, empêchées par le Saint-Esprit. Des choses d'aujourd'hui, on se dit, bon, comment tu comprends ces manières-là? Bon, c'est pas normatif, on tourne autour. Hein, mais n'empêche que... dans le livre des Actes, il semble bien que Dieu se parlait de manière très précise. Le Saint-Esprit et nous avons décidé, tu lis ça comme ça, tu lis le livre des Actes sans sourciller, puis après tu t'arrêtes, ouh là là, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce qui se passait? Comment est-ce que tu peux écrire ça? Qu'est-ce qui s'est passé pendant la réunion? Pour que la secrétaire ou le secrétaire de séance dise, le Saint-Esprit... Intéressant. Comment est-ce que le Saint-Esprit nous parle aujourd'hui? Je pose des questions, je ne donne pas forcément les réponses. Il a guidé Philippe, il s'est révélé à Paul, et ainsi de suite. Le livre des Actes. Et dans le livre des Actes, donc, on voit des hommes qui, entendant la voix de Dieu, la direction de Dieu, apprennent à marcher et à obéir à sa parole. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, cette parole devient une réalité vécue. Ce n'est pas un dogme extérieur, ce n'est pas de la théologie, c'est quelque chose qui devient de notre expérience. Moi, j'aime beaucoup cette image... De Jésus qui sur la route d'Emmaüs, et puis quand les disciples pensent à ce qui s'est passé, hein, qu'est-ce qu'ils disent? Alors déjà, Jésus a donné une explication, hein, ouvrant les Écritures, hein, Il leur a expliqué, alors c'est incroyable qu'ils n'avaient jamais compris ça, et puis leur cœur brûlait. Et je crois que quand Jésus, quand le Saint-Esprit nous explique les Écritures, qu'il nous révèle sa parole, il y a quelque chose qui s'allume en nous. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, ce genre de truc. Vous avez un carnet où vous écrivez des choses tout excitées, là, parce que Dieu vous a parlé. Parce que d'un seul coup, peut-être c'est tout banal, mais ça, Dieu, vous savez que Dieu vous a dit quelque chose. D'un seul coup, ce verset prend une dimension que vous n'avez jamais saisie auparavant. C'est la réponse dont vous avez besoin aujourd'hui, dans cette situation. Moi, je vous encourage vraiment à prendre des notes, à remplir des carnets. Il y a beaucoup de raisons. Alors, pour moi, c'est à l'image des hôtels que construisaient les patriarches. Ils étaient toujours en train d'empiler des cailloux. Vous voyez, ça vous dit quelque chose, ça ? Abraham, il n'arrêtait pas d'empiler des cailloux. Et quand ils sont rentrés dans la terre promise, ils ont empilé des cailloux. Et c'était toujours pour une raison. C'était pour se rappeler. Alors moi, je vous dis, empiler des cailloux. Bon, si vous avez une grande maison, un grand jardin, sinon des carnets, ça le fait très bien aussi. Avec la date. Parce que le jour où tu sais plus où tu es, le jour où tu es un peu dans le flou, eh ben, tu vois le tas de cailloux. Et tu dis, ah, mais Dieu m'a parlé là. Ah, mais Dieu a fait ceci ce jour-là. Ah. Et c'est à ça que ça sert les cailloux. C'est à ça que ça sert les autels. Et c'est à ça que ça sert ces petits carnets de notes. Des fois, je note pas et je m'en veux. Tu es sûr que tu vas t'en souvenir. Mais c'est sûr, tu l'as vu, boum, ça t'a sauté à la figure. Je ne peux plus jamais oublier ça. Et le lendemain, tu ne sais même pas trouver le livre où tu l'avais lu. Ne laissons pas échapper. Tenons précieusement, serrons la parole dans notre cœur. Cette communion nous transforme. Alors, je l'ai dit, d'accord, ça n'a rien à voir avec la méditation orientale et ainsi de suite. Certainement pas perdre contact avec la réalité. À aucun moment, on parle de ça, mais bien plutôt s'attacher à Dieu. Nous donner pleinement à Dieu. Ce n'est pas compliqué. Par contre, ce n'est pas compliqué en soi, mais c'est compliqué, c'est par rapport à ce que j'ai dit auparavant, de trouver le temps, le silence, la solitude, pour se dire, je vais méditer cette parole. On se complique la vie. Vous avez tous entendu parler du plan de lecture de McShane, si vous êtes converti depuis quelques années. Voilà, c'est formidable, hein ? Il n'y a pas mieux. Tu suis ça, chaque année tu lis l'Ancien Testament, le Nouveau Testament deux fois et les psaumes deux fois. Programme minimum. On est chrétien ou pas ? On aime Dieu ou pas ? C'est vraiment le minimum qu'on puisse faire. Un quart d'heure, 20 minutes de lecture tous les jours. Et puis, tu as un petit rond. Alors moi, je suis comme ça. Il faut que le rond, il n'y ait plus de blanc dedans pour que je sois content. S'il reste du blanc, ça ne va pas. Alors, je m'applique à bien remplir le petit rond. Je suis au 5 novembre, je suis à l'heure. Je m'étais assuré que j'étais à l'heure avant de vous le montrer. Mais voyez, il y a un piège là-dedans. Déjà, si j'avais une semaine de retard, je ne vous l'aurais pas montré. Des fois, j'ai de l'avance. Là, je suis un bon chrétien quand j'ai de l'avance. T'as vu, Seigneur, j'ai deux jours d'avance sur ma chaîne. Et tu mesures ta spiritualité en fonction des cases que tu as cochées. Et puis, des fois, il faut tellement que tu lises ton chapitre pour remplir le petit rond que tu ne sais même pas ce que tu as lu. D'ailleurs, il y a des fois, tu dis, « Ah, j'ai pas le temps de remplir le rond, mais je le remplirai demain. » Et tu reprends ta Bible, tu dis, « J'ai pas lu ça hier, pourtant je savais que j'avais un rond de retard. » Ça vous est jamais arrivé, ça ? J'arrive à tourner les pages en dormant. Pas de problème. Ça s'appelle Alzheimer, merci, tu me rassures. Mais ça commence de bonne heure, hein, Alzheimer, maintenant. Et puis, il y a un jour, tu te réveilles et tu dis, mais ça sert à quoi ? ça sert à quoi de lire ma Bible en un an? Alors je suis fier, hein, moi j'ai été élevé à la Ralph Chalice, tu vois. Et donc ça fait 30 ans que je lis ma Bible en un an. Et alors, t'impressionnes qui? Parce que qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Est-ce qu'à cause de ça, t'es un meilleur mari? Qu'est-ce que tu connais de plus de Dieu? Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut abandonner McChain. Mais c'est de ces pièges dans lesquels on peut tomber. Parce que par souci de lire tes 4 chapitres par jour, eh ben, tu ne retiens rien du tout. Est-ce qu'il faut mieux pas s'arrêter sur un verset, un mot, une phrase, et en prendre plein la tête et plein le cœur pour toute la journée? Tu tombes dans l'ascenseur sur ton voisin qui va vider les poubelles. Tu sais pas ce que j'ai lu ce matin. Ah, il faut que je te dise. C'est énorme. Donc, préparez le moment pour la méditation. Je vous ai dit qu'il fallait choisir l'endroit, enfin pour moi, hein, dans mon bureau, je le sais. Si j'appuie sur le bouton de l'ordinateur, j'ai 2 ordinateurs sur le bureau et 3 téléphones. Ce n'est pas pour vous impressionner que je dis ça, mais c'est juste le contexte. Et ce contexte n'est pas propice à la méditation et à la lecture de la Bible. Parce que je suis en mode, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Et je n'ai pas besoin d'être d'ailleurs dans mon bureau, pourquoi vous rigolez là? Je peux dire, au premier rang, vas-y. Ah ouais, je me suis acheté un dernier gadget. J'ai un casque. Comme ça, je peux continuer à travailler en téléphonant. Je mange avec le téléphone. C'est bien avec le casque. Donc si un jour vous me téléphonez et que vous entendez des bruits bizarres, je suis au casque. Mais bon, je passe 4, 5 heures, je sais pas, 2 heures minimum par jour au téléphone et des fois plus. Bref. Donc c'est pas propice. Donc il faut que je me mette loin du téléphone, loin de l'ordinateur, loin de mes dossiers, et que je dise, voilà, j'ai une heure où rien ne va me déranger. Alors l'heure, tu la prends, hein, tu remontes, hein, tu sais ce que tu as à faire dans ta journée, je ne dis pas qu'il faut commencer à 9 heures. Et voilà, tu t'arranges pour que tu sois à l'heure au boulot quand même. Hein, si tu arrives au boulot, ben, j'avais non, une heure avec Dieu, je suis désolé. À partir de maintenant, on commence plus tard. Non, c'est à toi de commencer plus tôt. Je dis une heure, mais c'est pas long une heure, c'est incroyable la vitesse où ça passe. Mais se donner déjà le temps, l'endroit où je vais être dans une bonne... Il y en a qui vont préférer aller se balader. Chacun son endroit. Bien, bien confortable, pas trop quand même. Parce que là, on passe vite de l'autre côté. Mais... Voilà, des fois le tabouret, c'est pas mal finalement, parce que quand, boum, tu bascules. Et puis on commence à se plonger dans un texte. C'est ce que Marie, quand Marie, elle voyait la maman de Jésus, qui voyait ce qui se passait, il y a marqué qu'elle repassait, non, c'est pas ce que vous pensez, elle repassait ces choses dans son cœur. Et il y a tellement de choses qui passent devant nos yeux et qu'on ne fait pas repasser dans notre cœur, et en particulier la parole de Dieu. Mettez-vous dans les situations que vous lisez. Vivez ce qui est en train de se passer dans la scène. Je vis ça, c'est incroyable. Et souvent, dans mes prédications, je raconte l'histoire parce qu'il faut se mettre dedans. Et puis tu changes de personnage. La multiplication du pain, tu vois, un coup t'es le petit garçon, un coup t'es Jésus, un coup t'es les disciples, un coup t'es le gars, t'es le couteau bout qui ne sait pas pourquoi il était sur la colline. Et puis tu te mets dans toutes ces... Et puis tu sens, tu vois, et qu'est-ce qui se passe, et pourquoi il a dit ça, qu'est-ce que t'as entendu, qu'est-ce que t'as compris. Mais ça prend du temps et tu t'absorbes de cette situation. Tu te mets à la place des disciples. Si j'avais été là, qu'est-ce que j'aurais compris? Avec ce qu'ils savaient, dans le contexte où ils étaient. Et tu laisses cette parole te pénétrer. Tu n'es pas un observateur passif, tu deviens un acteur dans cette parole. Et tu entends Jésus comme s'il était devant toi. Ça, c'est la méditation à partir des Écritures. Méditer sur ce qui nous arrive dans la vie. C'est pareil, on passe tellement vite sur les événements de notre vie. Bon, je ne vais pas vous reparler de ma petite fille, mais quand même. Profitons de ces émotions de nos vies. Ça, c'est une belle émotion. Moi, je suis, comme disait Sarah, elle me l'a rappelé brutalement, « Oui, papa, t'es pas très romantique, généralement. » C'est vrai, je ne suis pas trop très poète non plus, mais pourquoi j'ai réagi de cette manière? Pourquoi cette situation m'irrite? Pourquoi cette personne m'irrite? Qu'est-ce qu'il y a là, chez moi? Méditer sur ces choses. Remettre au Seigneur cette irritation. Est-ce que tu peux changer mon cœur face à ceci, à cela? Méditer sur la création. Ah. Alors, il y a deux événements qui ont coïncidé dans ma vie. J'ai été invité, ça fait partie du... C'est le travail, hein, si vous voulez. J'ai été invité à la Réunion, en Guyane et à la Martinique, pour des raisons professionnelles. Et... Alors, je suis vraiment basique, mais quand je suis monté dans l'avion pour aller en Guyane, tu vois, tu voles à 1000 km heure pendant 9 heures. C'est long. Mais c'est long parce que le monde est grand. Et tu te dis que tu es juste sur la terre et que tu as fait un petit bout. Alors, il n'y a que de l'eau en dessous pendant 9 heures, tu vois, tu vois que de l'eau. Tu te dis, ça, c'est la taille du monde, tu vois. Puis après, bon, je vous dis, je suis vraiment basique, mais... quand tu penses à la taille de l'univers, et puis tu commences à réfléchir, tu te dis, mais c'est extraordinaire, quel Dieu on a, hein. Et puis tu pars là-dessus. Alors j'étais tout en train, tu vois la végétation qu'il peut y avoir en Guyane, et les oiseaux, et tout est beau, c'est incroyable. Puis au même moment, il y a le film de Perrin qui est sorti, Océan. Alors moi, ce film, je l'ai pris au premier degré. Mais il y a des tas de choses dans le monde qui ne servent à rien. Dans la nature, mais qui sont belles. Dieu a créé une multitude d'êtres vivants et de paysages qui ne servent à rien. Simplement pour dire, les cieux déclarent la gloire de Dieu. Pour qu'on s'émerveille. Des trucs que les hommes ont découverts et qu'ils n'ont pas encore découverts. Je vous ai amené ce livre, ça c'est terrible comme bouquin. Dieu des fourmis, Dieu des étoiles. Alors, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Vous lisez le chapitre sur la guêpe solitaire. C'est incroyable. Mais tu es là, tu peux juste te dire, Seigneur, tu es grand. Mais émerveillons-nous, j'espère que vous vous émerveillez encore des reportages sur Arte. Mais vous savez, c'est ce que dit Piper en fait. Dieu a créé des choses uniquement pour que des cinéastes puissent le mettre en scène pour nous le montrer. Pour que des biologistes non chrétiens puissent nous révéler la gloire de Dieu. Tellement c'est beau, tellement c'est extraordinaire. Alors on peut méditer sur la création. Je crois qu'on peut méditer aussi sur ce qui se passe dans le monde. Et en ce moment, on n'a pas trop de soucis, hein. Mais réfléchissons à ce qui se passe dans le monde, Bible en main. Même si, encore une fois, c'est basique. Mais voyez, j'espère qu'il n'y a plus personne dans cette salle qui pense que le salut est dans les actions que vous avez à la bourse. Que la politique, que les hommes de ce monde sont des marionnettes entre les mains de Dieu. Personne n'avait vu venir le printemps arabe. Pas un seul homme n'avait prévu que tous les pays arabes autour de la Méditerranée allaient connaître une telle révolution en quelques mois. Et ce n'est pas fini. L'euro, qui peut dire ce que va être l'euro demain? On vit dans un... Moi, c'est passionnant, dans un sens, si tu crois à l'invisible et si tu crois que Dieu tient le monde dans ses mains. Mais on peut méditer de ces choses, voir que Dieu est en train d'agir aussi, certainement, dans ce monde. Une fois, j'ai assisté à un séminaire de la fille de Billy Graham en Écosse, ça remonte à quelques années. Et sur ce thème-là, elle avait tenu un petit atelier. Les quatre questions que je vais vous donner seront dans le petit papier là, qui vous sera distribué. Et c'était un moyen très simple de méditer à partir d'un texte. Première question, que veut dire ce passage? Alors ça, c'est tout simple, c'est de l'étude de texte. Est-ce que je comprends les mots? Qu'est-ce que ça veut dire? Deuxième question, que veut dire ce passage? Voilà, le premier, c'était le sens. Donc, quel est le sens du passage? Deuxième question, que veut dire ce passage dans le sens spirituel? Quelle est la leçon spirituelle qui est contenue dans ce passage? J'ai compris les mots, j'ai compris le sens. Quel est le sens spirituel de ce passage? Troisième question, que veut dire ce passage pour moi? Application. C'est très joli d'avoir un sens, une belle théorie spirituelle. Maintenant, par rapport au point où j'en suis aujourd'hui, c'est ça qui est magnifique, vous savez, dans McShane et dans la lecture continuelle de la parole de Dieu. C'est qu'un passage qui ne t'a pas parlé depuis 10 ans te parle aujourd'hui. Parce que c'est la parole de Dieu pour toi aujourd'hui. C'est complètement subjectif. Vous savez que Dieu nous parle même avec des versets en dehors de leur contexte. Peut-être que pour vous convertir, on vous a utilisé le verset d'Apocalypse 3, je frappe à la porte, il y a la poignée avec une porte que d'un côté et tout ça. Pas du tout question du salut, hein. Ça ne remet pas en question votre salut. Verset complètement en dehors du contexte. Mais ça marche. Jérémie 29, 11. Ah, c'est les jeunes, ils ont tous Jérémie, Dieu a pour moi. Quand tu lis le contexte, les gars, il faut faire attention, hein. Parce que c'est pas aussi simple que ça. Et tu as des versets qui disent, si tu justifies l'utilisation de ce verset pour toi, dans Jérémie 29, 11, tu as des malédictions qui s'appliquent à toi de la même manière. Mais Dieu parle au travers de ces versets. Ça, c'est la parole subjective de Dieu. C'est pas un dogme. C'est vrai pour toi, c'est Dieu qui te parle. Que veut dire ce passage pour moi, personnel? Après, la quatrième question, c'est qu'est-ce que je vais en faire? C'est bien joli de savoir que Dieu me parle, Dieu m'a dit quelque chose. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je change? Qu'est-ce que je mets en application? Et puis, je crois qu'un des meilleurs outils pour la méditation, c'est la mémorisation. Alors, il y a des milieux où on est très fort dans la... Il y a des méthodes de mémorisation, sans aller dans ces excès-là. Mais je crois que mémoriser la parole de Dieu... C'est la meilleure manière de serrer la parole dans son cœur. Et là encore, hein, ce n'est pas un devoir, ce n'est pas quelque chose que je fais pour atteindre. C'est simplement donner à Dieu la possibilité de nous parler quand on n'a pas la Bible à la main. Ah oui, je sais, je voudrais dire quelque chose. Dieu m'a parlé, mais attends, il faut que je retrouve. C'est dommage. Vous savez, c'est comme avec les promesses de Dieu. Hein, si tu connais une promesse, ben c'est bien. Mais la Bible contient tellement de promesses. Et donc, plus on met un capital de versets, de promesses dans notre cœur, plus le Saint-Esprit peut utiliser tel mot, telle parole pour nous parler. Donc, je crois à la mémorisation de l'Écriture. Deuxième discipline, l'étude. L'étude de la parole. Alors, je dis ceci. Si le but de toute discipline spirituelle est la transformation de la personne, en remplaçant de vieilles habitudes de pensée destructrices par de nouvelles habitudes qui donnent la vie, alors l'étude de la parole en est le moyen par excellence. Comment discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait? Vous connaissez le début de ce verset de Romains 12, 2? Par le renouvellement de l'intelligence. Et le renouvellement de l'intelligence a sa source dans l'étude de la parole de Dieu. Pensez selon ce que, la manière dont Dieu pense. Philippiens 4, 8, que tout ce qui est juste, vrai, honorable, pur, digne d'être aimé, ce qui mérite l'approbation, ce qui est digne, synonyme de qualité morale, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc là, on est dans l'analytique. Autant la méditation, on est dans le dévotionnel. D'accord ? On est dans le subjectif, on est dans le personnel. Quand on parle étude, on est vraiment dans l'analytique. On va expliquer, on va décortiquer le sens du mot. On va essayer de comprendre exactement ce que cette parole veut dire. Alors, c'est un autre domaine qui est tout aussi important. Et évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais c'est quelque chose qui est essentiel aussi à notre croissance spirituelle. Il y a des trésors à découvrir dans la parole de Dieu. Et puis en plus, aujourd'hui, alors autant j'ai pu me moquer doucement des outils informatiques, autant aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent d'étudier sérieusement la parole de Dieu, qui sont extraordinaires. Hein. Alors soit pour l'étudier, avec l'enseignement par correspondance, l'enseignement par Internet, mais même chez vous, à partir d'un ordinateur, vous avez maintenant accès à une bibliothèque extraordinaire. Tout n'est pas mauvais sur Internet. Mais c'est ça, on n'a jamais eu ça. Je trouve que c'est absolument merveilleux. Donc on peut vraiment avoir accès à une étude sérieuse de la parole. Alors je parle individuellement, hein, mais c'est évidemment aussi en Église et collectivement. Encore une fois, le but, ce n'est pas de se remplir la tête uniquement, mais c'est toujours ayant en vue la transformation intérieure. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé, équipé pour toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, 16, 17. Donc, voir l'étude de la parole comme une discipline spirituelle en vue d'une transformation intérieure. Quelques mots sur la prière. Alors, je vous ai parlé de la prière renouvelée de Don Carson. Je ne sais pas si vous trouvez que c'est facile de prier. Je ne suis pas vraiment un contemplatif dans l'âme. Hein. J'ai du mal à m'arrêter, à prier. Mais je sais pas, j'ai essayé la culpabilité, j'ai essayé tout ça, ça marche pas fort ou ça marche un certain temps. Hein. Donc on a vraiment besoin de considérer la prière pour ce qu'elle est. Et encore une fois, avec ce que j'ai dit auparavant, par rapport à notre motivation et notre désir de connaître Dieu, prier, c'est évidemment l'avenue principale que Dieu va utiliser pour nous transformer. La prière, c'est ce face-à-face avec Dieu. Alors, je ne sais pas si c'est utile que je dise ces choses, hein. Je les ai déjà dites, et vous le savez très bien. Mais j'ai parlé de la méditation. Un jour, je me suis posé la question, tu vois, t'entends que Jésus il passe la nuit sur la montagne pour prier. Alors, je l'ai dit à demi-mot, avant de prendre une grande décision. Par exemple, le choix des 12. Il passe une nuit sur la montagne à prier, avant de choisir les 12. Qu'est-ce que tu fais pendant une nuit à parler avec le Dieu qui sait tout quand tu sais qu'il a juste 12 noms à te donner? C'est réducteur, mais qu'est-ce que tu fais vraiment? Moi, au bout de 5 minutes, je ne sais plus quoi dire. S'il te plaît, voilà, je vais choisir mon équipe demain. 12, c'est pas mal, qu'est-ce que t'en penses? Mais c'était quoi le contenu de la prière? Non, mais méditez là-dessus. Qu'est-ce que finalement Jésus cherche à faire? Qu'est-ce qu'il dans sa communion avec son Père? C'est quoi son but? quand il passe une nuit à demander, à prier avant de nommer les 12. Vous voyez, il y a de quoi méditer là-dessus, certainement toute une nuit, une semaine. Mais moi, ça m'interpelle, parce que comment je prends une décision ? Généralement, j'ai déjà la réponse en tête et je m'assure que Dieu est d'accord. Et si je ne suis pas tout à fait sûr, je rajoute « que ta volonté soit faite ». Mais je ne sais pas si c'est vraiment suffisant. Est-ce que c'est satisfaisant ? Voilà ce que je devrais dire. Vous voyez, il y a des tas de domaines qui nous échappent. Si Jésus, Fils de Dieu, avait besoin de passer une nuit à prier avec son Père, qu'il connaissait depuis l'éternité. Vous voyez, moi j'ai envie de rentrer dans cette dimension-là. Et c'est vrai que le livre de Don Carson, quand tu étudies les prières de Paul dans le Nouveau Testament, ça t'ouvre l'esprit. Il y a souvent une vision eschatologique dans les prières de Paul dans le Nouveau Testament. Et puis, Paul, il ne prie pas pour le petit dernier qui passe un examen. Il n'y a aucune prière comme ça. Et on voit que la vision de Paul pour les chrétiens, quand il prie pour eux, mais j'en suis pas là, on ne prie pas comme ça. Et c'est là où ce livre m'a ouvert l'esprit, m'a ouvert l'horizon de la prière. Je me suis dit, mais on prie pour des choses banales. On ne prie pas pour l'essentiel. On ne prie pas pour ce que Dieu veut pour nous. Et quand tu alignes tes prières avec les prières bibliques, théologiques de Paul dans le Nouveau Testament, tu sais que tu es dans des prières qui sont selon la volonté de Dieu, ce qui me paraît théologiquement correct. Et ça m'a drôlement encouragé à prier dans ce sens. Vous voyez, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Je ne suis pas trop dans ma bulle, là, dans mon livre. Mais il y a tout un aspect de la prière. Et c'est vrai qu'on est souvent, moi je dis, dans la prière alimentaire. Et une fois que tu as fait la liste des courses, tu n'as plus rien à dire. Mais il y a autre chose dans la prière. Il y a passer du temps avec Dieu. Écouter, tu n'es pas obligé de combler les blancs. Les prières de David dans les psaumes, j'en parlerai aussi demain matin. Acte 6, nomination des diacres. J'ai jamais osé dire ça dans l'église. C'est où le livre des Actes ? Il ne convient pas que nous servions aux tables. Suite au conseil d'anciens d'hier soir, les anciens ont décidé qu'ils ne mettraient plus la table les jours des agapés. Silence. C'est ce qu'ils ont dit. Et l'Église est en train, et à deux pas d'une division. Mais les apôtres disent, il ne convient pas que nous servions aux tables. Parce que nous avons autre chose à faire. Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu. Verset 4, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Pour moi, ce passage, vu le contexte, alors qu'on est, encore une fois, à deux pas d'une division d'église, face à un problème matériel qu'il suffit de régler avec des bons comptables, les apôtres disent, nous allons nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Vous savez, quand je vous parle, j'ai besoin d'être convaincu de ça. Mais le ministère de la prière, être des intercesseurs, des hommes et des femmes qui savent passer du temps avec Dieu pour pouvoir prendre des décisions qui soient basées sur la pensée de Dieu. sur le conseil de Dieu. Ce qui m'encourage, c'est que les disciples ont demandé à Jésus, enseigne-nous. Bon, la prière des Éphésiens, là, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, mais voilà. Demandons au Seigneur qu'il nous révèle son amour. C'est aussi simple que ça. C'est quand la dernière fois que vous avez prié cette prière ? Que la puissance que Dieu a manifestée dans la résurrection de Jésus-Christ soit manifestée dans votre vie. C'est quoi la puissance dont parle Paul ? La puissance qui se manifeste dans nos corps mortels. C'est une prière biblique. Ce n'est pas la puissance pour la puissance. Hein. Deux mots sur le jeûne. Alors, je vais faire très court sur le jeûne, parce que bon, dans la Bible, il n'y a pas de commandement de jeûner, de même qu'il n'y a pas de commandement de manger. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Alors, on ne va pas mettre des lois, sauf qu'à l'époque de Jésus, on jeûnait. Deux fois par semaine, le mardi et le vendredi, hein, et on klaxonnait bien fort pour dire « Oh, je jeûne !» Esther a jeûné. Enfin bon, il y a des tas de jeûnes dans la Bible, on est d'accord. Il y a eu des jeûnes absolument miraculeux, parce que pas manger pendant 40 jours, c'est possible. Mais pas boire pendant 40 jours, t'es mort. Et il y a des hommes qui n'ont pas mangé, pas bu pendant 40 jours. Il y a des jeûnes surnaturels. Et puis, il y a des choses qui sont tout à fait naturelles. C'est simplement de dire à Dieu, je ne vais pas me laisser asservir par un besoin physique légitime, en l'occurrence la nourriture. Soit parce que je veux passer du temps pour prier, ou simplement être disponible pour Dieu. Bon, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Là encore, la Bible nous montre qu'il y a eu des circonstances particulières où on a décrété des jeûnes pour des questions précises. Mais la motivation du jeûne est importante. Ce n'est pas pour tordre le bras de Dieu, en tout cas. Mais plutôt révéler ceux qui nous contrôlent. Alors je continue sur la vague du multimédia. Me passer de nourriture pendant 24 heures, je peux le faire. Me passer d'un écran pendant 24 heures. Et vous savez, quand on réfléchit à ça, finalement, qu'est-ce qui m'a servi ? Et c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut s'arrêter et méditer. L'écran en soi, il n'est pas mauvais. Mais est-ce que je peux effectivement vivre ? Alors, je dis écran, hein, vous le déclinez à la sauce que vous voulez. Mais 24 heures sans écran. Le jeûne du 21e siècle. Peut-être que c'est 24 heures sans écouteurs dans les oreilles. Je ne sais pas ce que c'est. Mais révéler ce qui nous contrôle. Et puis, vous savez, cette parole de Jésus, la vraie nourriture, et j'en parlerai aussi un petit peu demain, hein, c'est quoi ? Quand on parle de jeûne, on parle de pain. Et Jésus dit, je suis le pain de vie. Et vous savez, on est complètement dans le désirer Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas une nourriture plus essentielle que cette nourriture terrestre ? Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ah, tu peux méditer aussi là-dessus. Et se nourrir de la volonté de Dieu, d'accomplir la volonté de Dieu. Voilà quelques disciplines sur lesquelles voilà, je vous invite à réfléchir, à vous arrêter et peut-être à nous remettre en question sur nos pratiques. Mais de loin, je pense que pour connaître Dieu et pour arriver à tirer une joie profonde de notre connaissance de Dieu, eh bien, il faut que nous méditions la parole de Dieu. Que nous nous arrêtions sur un verset, sur un passage, sans contrainte de bruit et d'activité, et réfléchir à ce que Dieu est en train de nous dire. Et sur la base de ce qu'il nous dit, agir en conséquence. Et commencer ces journées comme ça. Vous savez, je passe beaucoup de temps avec les jeunes lors du CFB, et tous ces jeunes qui sont nés dans l'Église, qui ont entendu enseignement après enseignement sur la lecture de la Bible, tu leur dis, et ça sert à quoi? Ils ne peuvent pas répondre. Et puis, dans les petits groupes, tu dis, c'est comment ta lecture de la Bible? C'est compliqué, c'est difficile, c'est irrégulier. Des fois, c'est le matin, des fois, c'est le soir. Et tu te rends compte que finalement, cette lecture de la Bible, c'est une culpabilité qu'on leur a mise sur le dos parce qu'il faut lire la Bible. Mais que malheureusement, il n'y a pas cette dimension, ce tête-à-tête, cette rencontre avec Dieu, où Dieu parle, où Dieu remplit nos cœurs et où cette parole fait la joie de notre cœur. Et la Bible, je vous ai lu ces versets, si la Bible nous dit qu'on peut faire de l'Éternel nos délices, que cette parole, nous pouvons l'aimer, eh bien je crois qu'on doit prier dans ce sens quand on ouvre notre Bible le matin. Et de croire que le Dieu créateur de tout l'univers veut nous parler au travers de ce Bible. Que je lise 4 chapitres ou que je lise un verset, peu importe, mais que je fasse de ce moment de tête à tête avec Dieu un temps de rencontre où Dieu va satisfaire les besoins les plus profonds de mon âme avec la nourriture qu'il veut me donner. Et si on peut changer notre optique de la lecture, nous attendre à quelque chose lorsqu'on ouvre cette parole, pour qu'elle devienne une parole de vie, une parole vivante qui transforme notre vie, qui nous transforme, alors je crois qu'on participe à la gloire de Dieu et que nous allons non seulement contempler la gloire de Dieu, mais que nous allons être aussi transformés par cette parole pour ressembler de plus en plus à ce Dieu-là. Je vais prier avec vous Éphésiens 1. Vous voyez, je suis bien formaté là. On relira cette prière demain, je crois. Mais elle est magnifique, cette prière d'Éphésiens 1, verset 15. « C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Seigneur, illumine les yeux de notre cœur. Amen.